Voilà, bonsoir, bienvenue pour notre troisième conférence de carême ici à Notre-Dame du Travail sur ce thème de « Que fais-tu pour l'éternité ?» Après avoir nous être penchés sur l'état de purgatoire et le jugement particulier, après avoir regardé l'appel, l'invitation au paradis, au risque de l'enfer, nous voyons ce soir parousie, résurrection de la chair et jugement dernier. Comme pour nos deux précédentes conférences, nous procéderons en deux temps. Un premier temps qui nous permettra de regarder les éléments scripturaires autour de ce sujet, et un deuxième temps qui sera plus théologique et spirituel autour de ces notions. Alors, quand on parle du jugement dernier, quand on parle de la parousie, c'est-à-dire de la venue glorieuse de Jésus, depuis l'ascension, nous attendons la venue dans la gloire de Jésus, eh bien, cette venue dans la gloire apparaît comme une certitude. Elle est annoncée comme une certitude. On peut reprendre, par exemple, ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, Saint-Pierre, au moment de la Pentecôte, à la fois dit ceci, « Repentez-vous, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. » Voilà que on annonce, à travers ce discours de Saint-Pierre dans les Actes des Apôtres, que c'est le Christ qui marquera, la venue glorieuse du Christ, qui marquera le jour du Seigneur qui avait été précédemment annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc une certitude de cette venue dans la gloire. Également, un autre aspect que l'Écriture nous permet de relever, c'est que autant la venue dans la chair de Jésus a été une venue discrète, sa naissance de la Vierge Marie à Bethléem est passée, j'allais dire, inaperçue aux yeux de l'ensemble de la planète, autant la venue glorieuse, personne ne pourra la manquer. On se souvient de ce qu'il y a écrit, c'est en Matthieu 24, au verset 26 et 27, voilà ce qui est dit. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, la venue glorieuse de Jésus n'est pas quelque chose qui pourrait passer inaperçu. Ce sera un signe qui est aussi visible qu'un éclair qui traverse tout le ciel de l'Orient à l'Occident. En revanche, si cette venue est immanquable, le moment est enveloppé d'un certain mystère. La question s'est posée lorsque, pendant le ministère du Christ, et je vous cite par exemple ce passage en Matthieu 24, autour des versets 30 à 36, « Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. » Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Mais quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. » Quelque chose qui apparaît étonnante. Alors, la date de la venue glorieuse semble échapper même au Fils. En tout cas, on devrait préciser, elle échappe au Fils dans son humanité, dans la limitation de l'humanité réelle qu'il a assumée. Mais cette date demeure mystérieuse aussi après la résurrection. Là encore, dans les Actes des Apôtres, Jésus ressuscité, Jésus glorieux, répond aux apôtres qui l'interrogent, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Et Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Et en même temps qu'il ne répond pas à cette question, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Il les invite à se préparer au don de l'Esprit et à la mission qu'ils auront d'être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, donc premier élément autour de cette certitude, mais dont on ne connaît pas, la date ne nous est pas donnée à l'avance. Petite précision aussi autour de la parousie, qui manifestera aussi le moment de la résurrection de la chair, où il est important d'abord de reparler de la réalité de la chair ressuscitée de Jésus. Et rappelez-vous en Luc 24, à partir du verset 37, Jésus, face aux apôtres qui pensent voir un esprit, pensent voir un fantôme, leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi, rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et plus encore même, il va manger devant eux un morceau de poisson grillé pour manifester la réalité de son corps ressuscité. Pourquoi est-ce que j'évoque ceci ? Parce que la réalité de la résurrection de Jésus est garante de la nôtre. Vous savez, saint Paul va le manifester très fortement dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 16 avant. Paul dit ceci, « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. » Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, et il ajoute « prémices de ceux qui se sont endormis ». On est en train de dire justement, oui, le Christ est ressuscité parce que les morts sont appelés à ressusciter, et la résurrection du Christ est justement le gage de la résurrection, de notre résurrection, de la résurrection de tous les hommes. Petite précision, c'est l'action de l'Esprit-Saint qui permet la résurrection de la chair. On l'a en Romains 8, au verset 11, de façon très claire. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit du Père, habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, le Père, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Voilà. « Donnera aussi la vie à vos corps mortels, on ne peut pas être plus clair, par son esprit qui habite en vous. » Donc, la venue glorieuse de Jésus est ce moment aussi de la résurrection, de la résurrection de la chair. Et cette résurrection de la chair, ce moment-là, se produira aussi un jugement, avec en même temps qu'un jugement. Alors, on a parlé du jugement particulier précédemment, la venue glorieuse de Jésus est lié aussi, on pourrait dire, au jugement particulier de ceux qui seront encore vivants à ce moment-là. Saint Paul l'évoque dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Il pense à ce moment-là qu'il fera partie de ceux qui seront encore vivants lors de la venue glorieuse de Jésus. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Donc, ce moment du jugement, de ce qu'on appellera le jugement dernier, sera aussi le jugement particulier de ceux qui seront encore vivants. Notez, je reviens sur l'élément de la résurrection, que c'est une résurrection pour tous. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement ceux qui participeront à la vie bienheureuse du paradis, qui ressuscitent. Ceux aussi qui ont rejeté définitivement le Seigneur connaîtront une résurrection. On peut citer là, par exemple, Acte 24, au verset 14 et 15. « C'est suivant la voie qualifié par eux de parti, que je sers le Dieu de mes pères, dit saint Paul, gardant ma foi à tout ce qu'il y a dans la loi et ce qui est écrit dans les prophètes, ayant en Dieu l'espérance, comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, il parle des pharisiens, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. C'est pourquoi moi aussi je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Donc résurrection pour tous, mais une résurrection qui sera vécue différemment selon justement la disposition de notre vie dans l'alliance avec Dieu ou dans le refus de l'alliance avec Dieu. Je cite par exemple Jean 5, les versets 28 et 29. Ne soyez pas étonnés, elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Ou pour encore citer Matthieu 25, au verset 46, et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc notre corps ressuscité, participe à notre vie éternelle. Vous voyez, comme on pourrait dire, il est la caisse de résonance de notre âme, il est le lieu de l'expression de notre âme, et justement, il sera la caisse de résonance de ce que vit notre âme dans la communion avec Dieu ou dans la séparation d'avec Dieu. Ce jugement dernier, en quoi est-ce qu'il se distingue du jugement particulier? C'est qu'il n'a pas seulement pour objet de manifester notre adhésion ou notre rejet de l'alliance de Dieu, mais il donnera aussi de voir, de saisir, de comprendre la conséquence ultime de nos actes. Vous savez, vous voyez, comme quand on jette une pierre dans l'eau, ça commence à faire un premier cercle, et puis de plus en plus, des cercles qui s'éloignent. C'est-à-dire, voilà, toutes les conséquences de cette unique pierre qui était tombée dans l'eau, c'est cette multiplicité de cercles qui s'éloignent de plus en plus. Il y a des actes que l'on fait dans l'histoire, pour en citer, par exemple, un tout simple. Saint François d'Assise, c'était au Moyen-Âge, mais encore des franciscains aujourd'hui. Il y a une conséquence de la vie de Saint François d'Assise qui est palpable encore aujourd'hui. Hitler, c'était au siècle dernier, il y a encore des gens qui se revendiquent du nazisme aujourd'hui. Il y a des conséquences encore dans l'histoire aujourd'hui. Le jugement dernier permet de connaître, de voir la portée de tous nos actes, mais permet aussi du coup de comprendre aussi combien nous avons bénéficié des actes des autres, combien parfois nous avons été portés, ou combien parfois nous avons été, j'allais dire, accablés par les actes des autres. Le jugement dernier sera un dévoilement, en fait, sur l'histoire, sur toutes les conséquences de l'histoire, de nos actes, des actes, de l'exercice de la liberté des hommes. Mais ce sera aussi le dévoilement de comment la providence et comment le salut de Dieu a justement trouvé son chemin à travers cette complexité de l'histoire des hommes. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du patriarche Joseph, qui lorsqu'il retrouve ses frères des années après, leur dit « Le mal que vous aviez décidé de me faire, Dieu l'a transformé en bien. » L'expression de comment eux qui l'avaient voulu s'en débarrasser, qui avaient voulu le tuer d'abord, puis qui l'avaient vendu en esclavage, eh bien voilà que le Seigneur en a fait une occasion de salut, alors qu'ils auraient pu tous périr à cause de la famine. Joseph, qui a été élevé en Égypte, devient une occasion de vie pour eux. Le Seigneur a transformé en bien ce qui, au départ, avait été une intention meurtrière. Et donc nous verrons l'œuvre, comment le salut de Dieu, la providence de Dieu, l'économie du salut, a trouvé son chemin au-delà du péché, au-delà de la mort. Nous verrons comment, justement, l'amour de Dieu dans l'histoire s'est accompli, a trouvé son chemin, et a permis justement au salut d'advenir. Un élément encore autour de cette venue glorieuse de Jésus. C'est que cette venue glorieuse de Jésus va rassembler toutes choses sous un seul chef, le Christ. Je cite, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, le verset 10, voilà, « Ramener le dessein de Dieu, le projet de Dieu, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les êtres terrestres. » Qu'est-ce que ça veut dire, d'une certaine manière? C'est que chaque chose va retrouver sa place. Vous savez, ça nous arrive de nous dire « mais je ne suis pas à ma place » ou bien « tel acte ou quelque chose, ça ne s'est pas bien combiné ». Là, au contraire, justement, tout trouvera sa place, tout trouvera du coup sa juste interaction, une interaction inspirée justement par le Christ, ordonnée par le Christ. Ça signifie aussi une intimité retrouvée avec Dieu. Vous vous souvenez de cette phrase de l'Apocalypse au chapitre 21 au verset 5, « La Jérusalem céleste qui descend du ciel n'a pas de temple particulier parce que c'est, si on pourrait dire, toute la ville elle-même qui est temple de Dieu. Dieu aura sa demeure parmi les hommes. » Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Rappelez-vous l'intimité du jardin de la Genèse, où on entendait le pas de Dieu dans le jardin. Elle avait été évoquée ensuite avec le temple de Jérusalem, où Dieu annonçait qu'il était proche. Et là, c'est « Dieu aura sa demeure parmi les hommes ». Il y a une intimité retrouvée. Il y a également une unité du genre humain, du coup, rassemblée dans cette Jérusalem céleste, une humanité rassemblée, purifiée et consolée. Elle apparaît comme l'épouse de l'agneau, dans un lien d'amour avec le Christ. Et Apocalypse 21, au verset 4, nous dit aussi ceci, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Voilà qu'il donne lieu, pour ceux qui sont entrés dans l'alliance de Dieu, à un temps de paix, à une béatitude éternelle. La mort, le démon sont jetés dans justement la seconde mort, l'étang de feu. Il n'y a plus de menace, cet ordre de béatitude ne sera plus remis en cause. Alors en même temps qu'on a ceci, on a une petite précision qui arrive aussi, on pourrait dire discrètement, c'est qu'il y a également l'enfantement d'un nouveau cosmos. Alors c'est un thème qui est assez peu développé dans l'Église latine, mais qui a été beaucoup plus développé dans l'Église byzantine, cette conscience que la terre et les cieux sont renouvelés, sont aussi saisis par la résurrection du Christ, par le salut du Christ, et donc il y a terre et cieux nouveaux qui seront manifestés lors de la venue glorieuse de Jésus. On en trouve les éléments de base dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Je vous cite ceci, c'est les versets 19 à 23. « La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être aussi libéré de la servitude de la corruption. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit Saint, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. » Et donc, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit qu'il y a une communauté de destin du monde matériel et de l'homme. Une communauté de destin du monde matériel et de l'homme. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Voilà. Nous ignorons certes le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité, nous ne connaissons pas bien le mode de transformation du cosmos, mais nous savons que Dieu nous prépare une nouvelle demeure, une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. L'affirmation encore que ce moment de la venue de la gloire de Jésus, tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie, c'est-à-dire ce que nous aurons fait, ce que nous aurons produit, ce que nous aurons propagé sur la terre, selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, eh bien nous les retrouvons plus tard, purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. Vous voyez, quelle est l'intuition derrière? C'est que, vous voyez, le Christ qui pouvait montrer ses plaies glorieuses, il montrait comment l'histoire avait été transfigurée, les plaies qui faisaient mourir sont devenues des plaies glorieuses, et il les conserve en vie éternelle. Eh bien, cette conservation en vie éternelle, et cette transformation, cette transfiguration en vie éternelle, a lieu aussi sur notre histoire, sur nos histoires, sur ce que nous aurons produit. Mais la venue glorieuse de Jésus est aussi liée, j'allais dire, à un événement qui est un événement de combat et qu'il nous faut relever parce qu'on peut avoir l'impression sinon que voilà, c'est un événement qui arrive tout d'un coup alors qu'il arrive au terme d'un combat. Il y a cette idée à la fois d'un accomplissement, mais aussi d'une lutte, d'une ultime épreuve de l'Église avant la parousie. Avant de parler de cette ultime épreuve, il y a un élément qu'on peut citer, parce qu'il y a autour de l'annonce de l'Évangile un mystère qui a frappé saint Paul très fort, qui a interrogé saint Paul de façon très forte. Quel est-il ce mystère? C'est pourquoi si peu de gens parmi le peuple juif ont-ils reconnu Jésus comme le Messie? C'est les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, où Paul s'interroge. Assurément, les premiers chrétiens, tous les apôtres, les premiers disciples sont tous juifs. Ils reconnaissent Jésus comme le Messie. Mais la majorité du peuple juif, alors qu'il est le peuple de l'Alliance, celui qui a été préparé pour le reconnaître, ne le reconnaît pas. Et il y a à la fois une souffrance, une interrogation, et au chapitre 11, saint Paul s'interroge. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certes non. Ne suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné. Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont bronché? Certes non. Mais leur faux pas a procuré le salut aux païens, afin que leur propre jalousie, celle des Juifs, en fût excitée. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité? Or, je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens et j'honore mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts? C'est assez étonnant comme formule de la part de saint Paul. À la fois il dit qu'est-ce qui s'est passé, il y a un étonnement, en même temps il voit le fruit que ça porte. Le refus de la majorité du peuple a entraîné un élan d'annonce aux païens et une conversion en masse des païens. Et donc il y a un fruit bon qui est jailli, que Dieu a fait jaillir de cette fermeture. Alors il dit, mais si cette fermeture a pu faire jaillir un fruit bon, sachant que les dons de Dieu sont irrévocables, alors il y a donc une espérance de conversion du peuple. Et à quoi est-ce qu'il sera comparable? À une résurrection des morts, c'est-à-dire la résurrection des morts, c'est ce qui se produit au jour du Seigneur, au dernier jour. Donc, l'entrée de la plénitude des Juifs apparaît dans le salut messianique, apparaît comme ce qui marque la fin des temps, ce qui donne au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Donc, il y a cette question de la conversion du peuple juif, liée aussi à la fin des temps, autour de cette thématique de la résurrection des morts. Et puis j'en viens maintenant à cette interrogation. L'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Dans l'Apocalypse, saint Jean le dit, oui, il rapporte les paroles du Christ, mon retour est proche. et l'Apocalypse se termine sur ces paroles, « Amen, viens Seigneur Jésus ». Cet avènement peut s'accomplir à tout moment, mais il semble qu'il y a une épreuve finale qui doit le précéder. Et là, je vais vous citer, je vais le lire un peu plus longuement, un extrait de la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens, qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'entendre, sauf si vous allez farfouiller dans votre Bible, mais dans les textes de la liturgie, il est généralement sauté, un tout petit bout au début, un tout petit bout à la fin, mais vous n'en avez pas l'intégralité. Donc je suis à la deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 3 à 12. « Que personne ne vous abuse d'aucune manière, dit saint Paul. Auparavant, avant la venue glorieuse, la manifestation glorieuse de Jésus, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de signes, de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité, qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et pris parti pour le mal. Alors, c'est effectivement pas un texte très simple à entendre, c'est un texte qui n'est pas très simple non plus à commenter, mais il va avoir aussi des échos avec ce que nous pouvons trouver dans le livre de l'Apocalypse. Vous vous souvenez que dans le livre de l'Apocalypse, il y a une lutte qui devient de plus en plus sévère entre les disciples du Christ, de l'agneau, et puis les disciples de la bête. Et qu'il y a un combat qui monte en, si on peut dire, en intensité, en agressivité, en malice, et que la fin, ce qui met fin à ce combat, c'est la venue de la Jérusalem céleste. C'est la venue du Christ, comme ici, dans la deuxième aux Thessaloniciens, c'est la venue du Christ et le souffle du Seigneur qui l'anéantira, qui anéantira l'impie. C'est le Christ, par la manifestation de sa venue, qui anéantit l'impie. Qu'est-ce que ça vient déjà nous dire? Ça vient déjà écarter l'idée que le monde serait mu par un progrès constant. L'idée que, voilà, on avance, on est parti des âges sombres, et puis de plus en plus, l'intelligence et la sagesse des hommes s'est déployée, s'est développée, et de siècle en siècle, on franchit des paliers jusqu'à arriver à une plénitude de la sagesse et de l'intelligence. Et d'une certaine manière, voilà, le royaume des cieux a été fait par ce progrès qui s'est déployé, j'allais dire, de façon continue. Ce n'est pas ce qui est manifesté. Ce qui est manifesté, c'est au contraire un combat de plus en plus intense entre les forces de la vérité et les forces du mal. Et vous voyez qu'on a réinsisté dans la deuxième aux Thessaloniciens, l'insistance était très forte sur l'amour de la vérité. Qu'est-ce qui maintient dans la droiture? Qu'est-ce qui va maintenir dans l'alliance l'amour de la vérité? Je redis ce que j'avais dit précédemment. C'est quelque chose de central parce que nous nous rendons compte que, comme le disait saint Paul, j'arrive pas à faire le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Et que nous sommes encore confrontés à cette difficulté-là. Mais je peux justement faire la vérité quand je me rends compte que j'ai fait le mal. Et c'est parce que je fais la vérité que je peux recevoir la miséricorde de Dieu. et du coup que je peux revenir et demeurer dans l'Alliance. Il y a donc dans ce parcours, dans ce temps, un enjeu d'humilité à accepter cette vérité de Dieu, à me laisser juger par Dieu et non pas par moi-même, pour demeurer dans l'Alliance. Mais celui justement qui ne veut pas, qui refuse cet amour de la vérité, alors son endurcissement deviendra de plus en plus intense et son impiété, sa malice, sera de plus en plus ferme. Cette épreuve manifeste et va de pair avec un ébranlement de la foi. Un élément qui a déjà été évoqué dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, au verset 8. Je vous dis que Dieu fera prompte justice, mais le Fils de l'homme, dit Saint Luc, rapporte Saint Luc, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ou bien en Saint Matthieu au chapitre 24, les versets 11 à 13, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. L'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. On voit que sont annoncées des persécutions. Si je redis Saint Luc, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ou bien en Saint Jean au chapitre 15, rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. Cette persécution dévoilera ce mystère de l'iniquité, jusque sous la forme d'une imposture religieuse. Parce que c'est quoi ce dont parle saint Paul, ce mystère de l'iniquité, cette imposture? C'est justement la volonté d'apporter aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, mais au prix de l'apostasie de la vérité. Voilà, si on peut dire, celui qu'on appelle l'Antichrist, qui est vaincu par la venue justement du Christ véritable, il n'arrive pas comme une espèce de monstre effrayant tout le monde. Il arrive justement comme le sage, celui qui dit « Mais moi je vais vous donner la solution de la paix, moi je vais vous apporter la sagesse, moi je vais vous apporter la vraie béatitude, mais au prix du renoncement à la vérité du Christ. » Au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême, c'est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu, à la place de son Messie venu dans la chair. L'Église, du coup, n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cet ultime Pâques où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Je le répète, le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme de ce jugement dernier, révélation du sens de chaque acte de l'histoire et de l'histoire dans son intégralité, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe et la venue de ce monde renouvelé. Donc cette parousie, cette venue dans la gloire du Christ, à la fois une certitude, la victoire du Christ n'est pas mise en doute, en revanche, nous savons que le combat continue. On a parfois cet exemple de bataille où le sort de la bataille a déjà tourné, mais le combat continue pendant encore de nombreuses heures. Eh bien, la venue glorieuse de Jésus marquera la fin de ce combat, mais nous ne ferons pas l'économie de ce combat pour accueillir le Christ vainqueur, le Christ sauveur, la terre et les cieux nouveaux qu'il nous promet. Voilà, je laisse la parole au Père de Mélo.
Alors, pour rester dans le thème, je suis en train de faire une parousie. Qu'est-ce qu'on appelle la parousie ? La parousia en grec. Je fais mon arrivée, ma venue, vous voyez. Je suis présent au milieu de vous, je suis monté là, j'ai effectué une parousie, vous voyez. Eh bien, c'est ce dont on parle quand on parle de cette fin des temps. Le Seigneur qui paraît, qui advient. Et puis il y a un autre mot qui est lié à la parousie, à cette venue du Christ à la fin des temps. C'est un autre mot grec qui s'appelle pléroma. Le plérome, c'est la plénitude. Il y a une image qui est employée dans les dictionnaires étymologiques pour parler le plérome, la plénitude des temps. L'accomplissement du dessein de Dieu à la plénitude des temps, c'est quand le bateau des pêcheurs, la cale du bateau est pleine de poissons. On peut plus en mettre, vous voyez, ça. Sinon, le bateau coulerait, vous voyez. C'est à ras-le-bord, c'est à ras-bord, voilà, c'est plein à ras-bord. Eh bien, la parousie, le retour du Christ en gloire, pour reprendre la question du délai, de la date, de cette question posée à Jésus, mais quand est-ce que le Fils de l'homme reviendra ? Eh bien, c'est quand la coupe sera pleine, quand le bateau sera plein de poissons, que la moisson aura été totalement accomplie. Et pourquoi est-ce que le Christ lui-même peut dire que le Fils de l'homme lui-même ne sait pas quel est le temps de la parousie, de la fin des temps ? Eh bien, c'est parce que c'est le Père, en quelque sorte, qui jugera cette heure, qui verra ces poissons s'agréger dans cette cale du bateau, et qui jugera qu'à ce moment-là, on a atteint cette plénitude, ce plérome, on a atteint ce niveau de perfection de sa création, parce que sa création, il l'a posée devant lui dans une position filiale. Et il faut que la création et le genre humain aient atteint une qualité, une plénitude filiale pour que le Père juge qu'à ce moment-là, la création est parfaitement ajustée à son Fils, que le corps est parfaitement proportionné à la tête. C'est une image qu'emploie saint Paul, comme si, quand, vous savez, on prend cette image de l'Église qui est le corps du Christ et le Christ qui est la tête, vous voyez ? Et alors l'image est bizarre à un moment donné chez saint Paul parce qu'il dit que dans les temps où nous sommes, le corps doit se proportionner à la tête. Donc vous imaginez une tête énorme et un corps atrophié. C'est pas très beau, vous voyez ? Pourtant, l'iconographie chrétienne a pris cette image bien souvent en représentant l'agneau de Dieu avec un corps un peu rachitique. Pourquoi ? Pour nous représenter ce corps qui est en croissance et qui se proportionne à la tête. Et lorsque la proportion sera parfaite, alors on aura atteint le plérome, la plénitude du corps. Ce moment dont saint Paul nous dit qu'il sera tout en tous. Et puis il aura parfaitement, nous lui serons parfaitement intégrés. Aujourd'hui, nous essayons de nous convertir à le carême, de faire en sorte que le Christ vive pleinement en nous. Et puis un carême ne suffit pas, alors on en remet un tous les ans. Et on galère, quoi, à essayer de se convertir. On ne peut pas dire que le Christ soit vraiment tout en nous tous, quoi. Il a encore du terrain à gagner dans nos vies, vous voyez. Et on ne peut pas dire que le corps du Christ soit encore pleinement rassemblé dans l'unité, que ce corps soit totalement harmonieux. Et puisque le Seigneur semble prendre patience avant de revenir à la fin des temps, puisque c'est que le Père juge que le corps de son Fils n'est pas encore pleinement proportionné à la tête. Et donc, je vous invite à lire l'épître de saint Pierre qui parle de ce temps où de Dieu qui est patient et qui nous laisse le temps pour qu'on puisse se convertir et que cette heure puisse advenir quand le corps sera pleinement rassemblé. Vraisemblablement, pour rebondir sur ce qu'a dit le père Wurtz, le père a aussi dans ses calculs et dans ses projets que son peuple chéri, le peuple élu, soit vraiment prêt à entrer dans cette vie divine, que le Christ soit tout en tous, y compris en eux. En tout cas, cette heure dernière, nous ne la connaissons pas, Dieu, le Père seul la connaît, et c'est lui qui en quelque sorte en a la clé, le critère, la connaissance. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce temps d'attente. Mais dans cette parousie, ce retour du Christ à la fin des temps, donc on nous a parlé de la résurrection, on nous a parlé aussi du jugement. L'Église a traditionnellement parlé du jugement dernier. On a parlé l'autre jour du jugement particulier. En quelque sorte, notre face-à-face avec le Christ dévoile la beauté de notre vie, et si nous consentons à nous laisser éclairer, à nous laisser juger par le Seigneur, ce face-à-face va nous amener à nous laisser purifier pour que nous soyons parfaitement ajustés au Christ dans sa gloire. Mais ce jugement particulier n'est pas le seul jugement en quelque sorte. L'addition de tous les jugements particuliers en quelque sorte et le jugement de toute l'histoire humaine sont aussi une étape importante, parce que notre vie n'est pas qu'une réalité particulière. Nous sommes reliés les uns aux autres dans un organisme dont nous sommes les organes. Nous sommes reliés les uns aux autres dans le corps du Christ. Et donc, c'est aussi le poids de charité que nous aurons eu et qui aura marqué ce corps du Christ, cette réalité collective et communautaire dans laquelle nous sommes, qui va passer au crible, qui va être mis en lumière. À un moment donné, il nous sera donné dans ce jugement définitif, dernier, de voir non pas simplement notre existence dans sa singularité, avec j'ai bien fait ci et j'ai pas bien fait ça, vous voyez, si on devait dire les choses de manière restreinte et peu caricaturale, mais de voir comment notre existence s'est logée, a pris sa place dans toute cette œuvre, dans cet édifice saint que Dieu a construit. Alors Saint Pierre a une très belle image, il prend l'image des pierres vivantes, d'un édifice qui est construit sur une pierre angulaire qui est le Christ, cette image des pierres vivantes qui sont en quelque sorte qui s'agrègent les unes aux autres, comme si sur la pierre angulaire qu'est le Christ, de la pierre angulaire il y avait une sorte de vie, de rayonnement, de sainteté qui passe dans toutes ces pierres, qui, à la fin, au bout du compte, forme un édifice splendide. Et finalement, savoir que nous sommes les pierres d'un édifice plus grand que nous, que nous sommes saisis dans cette réalité qui n'est pas que individuelle et particulière, mais dans cette communauté du corps du Christ, que nous avons, que tous les enfants de Dieu dispersés ont été rassemblés en un seul corps, dans lequel il est tout en tous. Vous voyez, que nous nous apprenions à nous voir et à nous comprendre et à comprendre notre existence dans cette dimension bien plus vaste que la simple vie que nous essayons de construire et le chemin de sainteté que nous essayons de parcourir, mais en voyant notre existence dans cette œuvre plus grande et plus vaste et plus belle. Voilà finalement ce qu'est ce jugement dernier. Cette manière de nous considérer dans une part de notre être qui donne beaucoup de profondeur à notre existence. L'être le plus misérable et le plus solitaire, l'être le plus pauvre et le plus isolé, l'être le plus caché aux yeux des hommes, eh bien, sa vie s'inscrit dans cet édifice saint. Il est une des pierres de cet édifice. Nos vies ne valent pas simplement parce qu'elles sont la qualification en quelque sorte de moralité que nous aurions essayé de vivre, et comme des réalités séparées les unes des autres. Nous ne sommes pas des électrons libres. On dit des anges que chaque ange est une espèce à lui tout seul. Eh bien nous non. Nous sommes reliés les uns aux autres dans une communion qui nativement fait que, déjà par la généalogie, nous sommes reliés à une généalogie humaine, c'est déjà une chose grande et importante. Nous sommes le fruit de la conception de plusieurs personnes qui s'aimaient, ou qui ne s'aimaient pas, mais qui néanmoins nous ont conçus, peu importe qui nous a aimés ou pas, ou qui se soit aimés ou pas, mais nous sommes tissés par des êtres qui sont relatifs les uns aux autres, donc en relation les uns aux autres, et nous sommes nativement des êtres de relation, et donc reliés les uns aux autres. Et par ce lien qui nous relie à tout le genre humain, eh bien un édifice se construit. Et c'est cet édifice qui sera mis en lumière à l'heure du jugement dernier. Le juge de toute chair donnera à voir, et nous donnera à contempler et à voir cette œuvre. Alors vous voyez, ça donne un petit peu de piment, finalement, à la représentation que nous pouvons avoir de la vie éternelle, où on se dit parfois, oh, je passe ma vie à contempler le Christ, une sorte de face à face, très statique, est-ce que ça risque pas d'être un peu répétitif, quoi. Enfin, Woody Allen disait que la vie éternelle, c'est très long, surtout à la fin. Mais c'est jamais, quoi. Enfin, c'est très beau de se dire que contempler le Christ, c'est aussi le contempler dans chacune de ces pierres de cet édifice. C'est que lorsque je vois le Christ vivant vivre dans une personne qui vit du Christ, je vois une nuance encore toute différente avec laquelle la lumière de Dieu se réfracte dans ce diamant qu'est cette personne, et je verrai autant de nuances qu'il y a de personnes, et chacun se trouvera ainsi nourri dans sa louange et dans sa joie, et par cet émerveillement, cette contemplation de ce que le Christ vit en lui, et du coup, chacun sera un être en croissance. Nous serons encore en croissance dans la joie et dans la louange. Nous ne serons jamais rassasiés de joie et de louange parce que nous aurons toujours une cause d'émerveillement qui nous émerveillera. Et chaque personne émerveillée sera plus belle parce qu'elle s'émerveille, et donc nous pourrons à nouveau nous émerveiller de cette nouvelle beauté apparue. Vous voyez, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le cœur sera comblé, il sera dilaté, et pour être comblé à nouveau. Et ainsi, cette réalité collective du jugement dernier, c'est cela qui nous arrache à une forme de solitude, telle que nous pouvons nous représenter le chemin de la sainteté, et c'est cela qui, en quelque sorte, marque le caractère toujours neuf, et garantit le caractère toujours neuf d'une charité à l'œuvre au ciel, comme la charité sur terre peut toujours apporter du neuf. Là où je disais le péché apporte toujours du pareil, la charité apporte toujours du neuf, et la sainteté est comme et la gloire de Dieu dilate les êtres et leur donne de s'émerveiller de la sainteté de leurs frères qui sont les membres du propre corps auquel ils appartiennent. Et nous voyons ainsi non pas seulement le Christ en face à face, mais nous le voyons de plus en plus vivant et pleinement vivant dans nos frères. Voilà en quelque sorte cette réalité de la vie éternelle que permettra le retour du Christ à la fin des temps et ce jugement dernier à la fin des temps. En attendant d'y être, il nous est donné, et c'est peut-être une autre raison pour laquelle le Christ lui-même ne peut pas se prononcer sur la date de son retour en gloire, il nous est donné nous-mêmes de hâter le retour du Christ. C'est ce que saint Pierre dit dans son épître. Je vous cite ce verset qui est quand même très étonnant. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 12. « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » C'est étonnant, mais en fait, nous pouvons hâter cette parousie. Nous sommes en quelque sorte des accélérateurs de l'histoire. Nous permettons à ce jour dernier de se rapprocher de plus en plus. Chaque acte de charité qui est posé sur cette terre, même le plus secret et le plus modeste, en fait, embellit le corps du Christ et contribue à ce que le corps du Christ se proportionne à la tête. Et ce faisant, chaque acte de charité, chaque acte d'amour de Dieu et toute chose faite dans l'amour de Dieu fait que, puisque nous savons qu'à la fin des temps, la seule chose qui demeurera, c'est la charité. Nous ne serons plus dans la foi, nous serons dans la vision. Notre relation à Dieu ne sera pas une relation de foi, mais une relation de vision. Nous ne serons plus dans l'espérance, puisque nous avons l'objet de notre espérance. Mais par contre, la seule chose qui demeurera, c'est la charité. Et chaque fois qu'un acte de charité, donc d'amour divin, d'amour théologal, est posé sur cette terre, il est ajouté au corps du Christ. Rien ne lui est jamais retranché. Le corps du Christ est un corps en croissance qui ne cesse que de croître. Nous pouvons mesurer statistiquement la baisse de la foi dans nos pays. Nous pouvons juger qu'il y a une sorte de rétrécissement qui nous inquiète et qui nous lamente. Mais il y a quelque chose qui ne se rétrécit jamais, c'est le corps du Christ. C'est que toute la vie de sainteté qui passe dans le cœur des hommes et qui les transfigure et qui les transforme, ne fait qu'embellir et que faire croître et agrandir le corps du Christ. Ainsi, nous voyons que par notre propre chemin de conversion et par la propre vie de charité dont nous vivons, nous-mêmes, nous permettons au corps du Christ de croître, de grandir. Et finalement, si les apôtres posent la question au Seigneur, mais quand est-ce que tu reviendras dans la gloire ? Il y a donc deux raisons pour lesquelles il ne peut pas répondre, parce que cela dépend du Père qui jugera que le plérôme, la plénitude est atteinte, mais cela dépend aussi de nous, cela dépend en quelque sorte de la radicalité de notre conversion, le sérieux de notre vie intérieure et de notre désir de vivre de Dieu et de l'annoncer dans ce monde, et de vivre de sa charité à lui, sur la terre comme au ciel. En ce sens, vous voyez, cette fin des temps n'est pas simplement une sorte de happy end sur lequel nous n'aurions, au bout du compte, pas grande influence. Nous y participons déjà. Nous l'anticipons, nous l'accélérons, nous le hâtons, et nous mettons déjà en position, en quelque sorte, pour cette bataille finale, chaque fois que nous prenons part déjà au combat spirituel qui est le nôtre, dans notre vie, avec toutes les misères qui sont nôtres, mais chaque fois que nous nous confions au Seigneur et que nous retournons vers lui, chaque fois aussi que nous laissons la charité de Dieu nous traverser pour aller toucher nos frères, nous permettons au Seigneur Jésus de les toucher, et chaque fois que cette charité va jusqu'à annoncer Jésus-Christ, puisque fide ex auditu, la foi rentre par les choses entendues, la foi doit passer par la transmission de la foi, par l'annonce de l'évangile. Chaque fois que nous évangélisons, que nous laissons le baptême nous traverser en charité jusqu'à annoncer l'évangile, en fait nous contribuons à faire croître le corps du Christ et à nous hâtons sa venue. Et dans la vigile pascale, quand tous ces baptisés vont venir en quelque sorte renforcer le corps du Christ et que le Seigneur continuer avec eux de rassembler ses armées en quelque sorte, eh bien nous pourrons considérer que Dieu, qui a rassemblé déjà beaucoup de ses armées dans sa gloire, continue de les rassembler et que cette heure dernière ne fait que se rapprocher un peu plus. Nous pourrons, reparcourant toute l'histoire du salut dans ces lectures de la Vigile pascale, nous verrons déjà quelque chose de la Jérusalem céleste qui descend du ciel auprès de Dieu, dont le temple en son centre est l'agneau victorieux, et nous aurons une représentation en chair et en os, avec nous, nos chairs encore fragiles parce que mortelles, mais nous aurons déjà ces prémices de cette heure, où un jour nous serons en chair et en os, mais glorifiés par la résurrection, nous aurons la joie éternelle de contempler cette victoire du crucifié. Voilà finalement ce qu'est aussi la liturgie de l'Église. Elle est une certaine manière d'entrer dans cette fin des temps, de célébrer la victoire définitive et de nous mettre en quelque sorte en prise, non pas simplement avec le mystère que nous célébrons du Christ qui est mort et ressuscité jadis, et qui s'actualise dans la liturgie de l'Église, mais nous sommes aussi dans la liturgie de l'Église en proie, en prise directe avec ce moment ultime dans lequel la plénitude se donne comme par anticipation dans la liturgie. Ainsi, notre condition de baptisé est une condition dans laquelle nous sommes dans cet entre-deux, entre la victoire du Christ ressuscité et sa venue définitive à la fin des temps. Et dans cet entre-deux, nous avons un pied à Jérusalem, au Golgotha et au tombeau vide, et nous avons un pied dans la gloire éternelle qui nous est promise et qui déjà nous est distillée dans l'œuvre de la grâce de Dieu, dans la liturgie de l'Église. Voilà quelle est cette condition du baptisé qui est bien dans le monde, mais qui en fait aussi participe à la gloire de Dieu déjà par avance, et qui est donc bien les deux pieds sur terre et qui va même finir sous terre à nourrir les chrysanthèmes certainement, mais qui est le baptisé est aussi en surplomb de ce monde et de cette histoire, en ayant part à la vie du Seigneur en gloire. Et bien donc, pendant ce temps de carême, notre combat spirituel est là pour déjà nous faire désirer plus pleinement cette manifestation glorieuse du Christ à la fin des temps.